Et le journal vous est présenté par Alexis Morel. Bonjour Alexis.
Bonjour Karine, bonjour à tous.
Vers un retour à la normale ce matin pour les trains entre Paris et l'Ouest, après une coupure totale du trafic hier soir. Un agent de la SNCF est mort, enseveli sur un chantier près des voies. Nous serons en direct de la gare de Montparnasse. Les autres titres, Alexis.
Ça passe pour le pass, projet de loi sanitaire adopté définitivement cette nuit, au prix de quelques compromis, vous l'entendrez. En Tunisie, le président suspend les travaux du Parlement après les manifestations du week-end. Les nouvelles prévisions climatiques du GIEC, alors que les phénomènes extrêmes se multiplient cet été. Et puis c'est peut-être un peu tôt, mais au menu de ce journal aussi, du foie gras de synthèse créé en laboratoire.
Les invités de la matinale de France Inter, d'abord un génial acteur, chaleureux, convivial, généreux. Vous avez reconnu Benoît Poulvorde qui enchaîne les films cet été. Il vient nous parler de Profession du père, signé Jean-Pierre Améris. Rendez-vous tout à l'heure à 7h50. Et puis à 8h20, c'est le climat justement qui s'invite dans le grand entretien. Comment se préparer, comment s'adapter à l'urgence climatique? Est-il déjà trop tard? On en parle avec le climatologue Jean-Pascal Vanipercel et le documentariste et militant écologiste Cyril Dion. Vos questions, vos réactions au 01 45 24 7000. Le standard est ouvert.
France Inter.
Plus de 70 trains retardés ou carrément supprimés. Le trafic ferroviaire a donc été interrompu plusieurs heures hier soir entre Paris et l'ouest du pays. Après un très grave éboulement, un ingénieur de la SNCF est mort enseveli sur un chantier tout près des voies à Massy-Palaiseau dans le sud de la capitale. Bonjour Alain Gastal.
Bonjour Alexis.
Vous êtes en direct de la gare Montparnasse à Paris pour France Inter. Le trafic revient doucement à la normale ce matin.
Oui, doucement à la normale. En tout cas, tout a l'air presque normal. Tous les trains partants sont, tous les trains prévus sont annoncés comme partants, ce qui va rassurer beaucoup Camille, arrivée très tôt car Montparnasse pour prendre le premier TGV pour Bordeaux.
Je me suis renseignée, j'ai regardé, j'ai 5 minutes de retard sur mon train. Donc ça va, ça reste raisonnable compte tenu de manifestement de l'événement grave qui s'est passé en fin de journée hier, si j'ai bien suivi. Ils ont été réactifs là-dessus, c'est vrai que puis en cette période plutôt critique des vacances, c'est vrai qu'ils ont été plutôt bons.
Ouais, un petit peu optimiste Camille comme la SNCF parce que le TGV pour Bordeaux est parti finalement avec une bonne demi-heure de retard. Une demi-heure de retard également pour celui vers Nantes qui part dans quelques minutes et qui aura également un trajet modifié, précise la SNCF. Et puis une demi-heure encore de retard pour les prochains TGV dont celui qui part vers Bordeaux et puis ensuite Tarbes. Donc il y a aussi des naufragés de la SNCF. C'est pour eux que c'est le plus difficile. Tous ceux qui ont passé la nuit sur un banc, sur une chaise, comme ils ont pu en s'adossant à leur sac à dos quelquefois. C'est le cas de Thibaut qui était arrivé hier soir pour partir à Brest.
Moi, je suis arrivé vers 7h, 19h49, j'avais un train et donc depuis j'attends. Alors, en fait, on savait pas vraiment parce que ça commençait à marquer que le train allait arriver et après c'était 1 heure de retard, 2 heures de retard, 3 heures de retard. Et après à un moment, ils ont annulé le train. J'ai reçu un email, mais après c'est tout quoi. On nous a dit aussi qu'on pouvait aller au guichet pour réclamer nos tickets et pour demander pour des logements gratuits. Il y avait une queue fou, donc j'ai pas fait ça.
Voilà, donc il n'a pas pu dormir à l'hôtel. Il a dormi sur un banc, sur une chaise, hein, à côté de quelques autres qui sont là. Et normalement, son TGV pour Brest devrait partir un petit peu sans doute après 8h.
Alain Gastal en direct de la gare Montparnasse avec Frédéric Kérou pour les moyens techniques. On l'entend donc, retour progressif à la normale après l'interruption du trafic ferroviaire hier soir.
Des TGV encore accessibles ce matin sans passe sanitaire, mais c'est bientôt fini.
Oui, dès le mois prochain, ils seront bien soumis au dispositif, tout comme les restaurants. Projet de loi sanitaire adopté définitivement au beau milieu de la nuit, après un accord entre députés et sénateurs. Le texte prévoit aussi la vaccination obligatoire des soignants. Et pour tenir ces délais très courts, le gouvernement a dû faire quelques compromis, Élodie Forêt, notamment sur les sanctions.
C'était l'une des lignes rouges de la majorité sénatoriale, le risque de licenciement des soignants refusant de se faire vacciner ou des salariés au contact du public qui refuseraient de présenter un pass sanitaire. Des sanctions disproportionnées avaient dénoncé les sénateurs en séance. Le gouvernement a finalement plié hier, acceptant de réduire la sanction à une suspension de contrat. L'exécutif, qui a aussi lâché du lest sur l'isolement obligatoire, il sera certes contrôlé, mais par l'assurance maladie d'abord, plutôt que les forces de l'ordre. Assouplissement également pour les gérants de bars et de restaurants qui ne contrôleraient pas les passes. Ils risqueront des fermetures administratives plutôt que des sanctions pénales ou financières. Un dispositif avec une date de péremption le 15 novembre, plus tôt que ce que souhaitait le gouvernement, qui sera, s'il souhaite prolonger le pass, obligé de repasser devant le Parlement.
Précision signée Elodie Forêt. Et pour les centres commerciaux, ce sera finalement du cas par cas. Pas de mesure nationale. Les préfets pourront décider d'imposer le pass sanitaire pour certains d'entre eux en fonction de la situation locale. Chez nos voisins allemands, touchés eux aussi par une remontée des cas, ont réfléchi à un nouveau tour de vis. Alors c'est encore au conditionnel, mais le directeur de la chancellerie, l'un des tout proches d'Angela Merkel, envisage, si ça s'aggrave encore fortement, une forme de super pass sanitaire. En clair, un test négatif ne suffirait plus pour aller au cinéma ou au restaurant. Le vaccin deviendrait alors le seul sésame. Changement de ton en Allemagne où les autorités craignent un pic à 100 000 contaminations par jour en septembre. La rentrée de septembre justement et cette reprise économique menacée par le variant Delta, notamment pour l'un des secteurs les plus touchés, l'hôtellerie. À Paris, les professionnels misaient sur septembre pour se relancer car dans la capitale, l'été est déjà fichu. Alors certains hôtels hésitent toujours à rouvrir, comme l'a constaté Claire Chaudière.
Hall d'accueil quasi désert, ambiance plus que feutrée. Nous sommes à deux pas de la gare de l'Est.
Une réservation prise aujourd'hui.
Les yeux rivés sur ses messages et son logiciel, ce gérant d'hôtel tente d'anticiper les prochaines semaines en vain.
Quasiment rien. Je suis Pierre Burignol, directeur d'exploitation des hôtels Libertel. On a 5 hôtels à Paris. On en a 4 actuellement fermés, un seul ouvert, avec des résultats très décevants.
On a dit c'était pour une nuit.
37% seulement de taux de remplissage sur cet hôtel ouvert. Alors faut-il rouvrir ou non les autres ?
C'est une question qu'on se pose régulièrement. Dès qu'on rouvre, il faut faire un chiffre d'affaires suffisamment conséquent pour couvrir les frais de personnel. On maintient la fermeture jusqu'à ce qu'on sente qu'il y a un frémissement. Et on ne le sent toujours pas d'ailleurs, ni même pour septembre.
Difficile de prédire à ce stade l'impact de la quatrième vague et du pass sanitaire sur la tenue des congrès et autres événements professionnels des prochains mois. Le brouillard, dit-il, est à nouveau complet.
Paris a besoin d'avoir des sources de voyageurs très différentes entre les touristes, les hommes d'affaires. Très honnêtement, j'ai un peu de mal à trouver une perspective. Là, ça va faire un an et demi. On pensait que septembre, c'était reparti. Si on fait les mêmes résultats qu'en septembre l'an dernier, il est évident que sans aide, ça va être très difficile.
Alors, sans noircir le tableau, le bouclage des plannings de rentrée, la ce directeur attendra encore un peu.
Claire Chaudière. Et face au variant Delta, l'exécutif mise surtout sur la vaccination. Le cap des 40 millions de primo-vaccinés pourrait être atteint dès aujourd'hui, avec un mois d'avance. C'était d'ailleurs le premier message d'Emmanuel Macron lors de son arrivée en Polynésie française hier. Faites-vous vacciner. Le chef de l'État qui poursuit son déplacement dans l'archipel, il est aujourd'hui aux Marquises pour soutenir l'inscription des îles au patrimoine mondial de l'UNESCO. Deux jeunes radicalisés qui s'introduisent en pleine messe du matin, égorgent le prêtre et blessent gravement un fidèle. Il y a 5 ans, l'assassinat du père Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray, près de Rouen. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est attendu ce matin sur place pour une cérémonie d'hommage.
La toute jeune démocratie tunisienne est-elle en crise ?
Le président Saïed décide de geler les travaux du Parlement et de s'octroyer le pouvoir exécutif après avoir limogé son premier ministre hier. Le chef de l'État engagé depuis des mois dans un bras de fer avec Ennahda, la première force politique au Parlement. De son côté, le parti islamiste dénonce ce matin un coup d'État contre la révolution. Les choses s'accélèrent donc après une nouvelle journée de manifestation. Des milliers de Tunisiens dans la rue hier contre la gestion de la crise sanitaire. Mais pas seulement, comme nous l'explique Vincent Gesser. Il est chercheur à l'Institut d'études sur les mondes arabes et musulmans.
C'est une colère qui se greffe aussi sur une profonde crise à la fois politique et institutionnelle, avec une lutte entre le président de la République, qui a été élu au suffrage universel direct par plus de 70% des Tunisiens, et le gouvernement qui, lui, est soutenu par le Parlement, ou du moins par les composantes majoritaires du Parlement, dans laquelle fait partie le parti islamiste. Et qui explique justement aussi les échecs en termes sanitaires, qui fait que les Tunisiens, ou la majorité des Tunisiens, ont le sentiment, ce qui arrive aujourd'hui à la Tunisie, ces milliers de morts, ces centaines de personnes qui décèdent à l'hôpital, cette incapacité des infrastructures publiques et hospitalières à répondre à la crise sanitaire, les Tunisiens ont le sentiment que c'est la faute des élites politiques, et plus particulièrement de la coalition majoritaire parlementaire et du parti. nada. Donc, effectivement, c'est une colère sociale, c'est une colère économique, mais c'est aussi une colère qui prend de plus en plus une tonalité politique de mécontentement contre la majorité parlementaire.
Vincent Gesser avec Frédéric Saïs. Jusqu'où peut aller le réchauffement climatique et a-t-on encore une chance de le contenir? Le GIEC, le groupe des experts climat de l'ONU, se réunit à partir d'aujourd'hui pour dévoiler ses nouvelles prévisions. Alors que les éléments se déchaînent ces dernières semaines, inondations dévastatrices en Europe et en Chine, incendies monstres en Amérique du Nord. Sandy Dauphin, le rapport du GIEC va donc être négocié là pendant 15 jours avec les délégations de chaque pays.
Ce rapport du GIEC contient les toutes dernières connaissances scientifiques sur le changement climatique. Le premier volet sera publié le 9 août, deux autres sont attendus pour 2022. Depuis la dernière évaluation du genre en 2014, la science a beaucoup progressé, explique le climatologue Robert Votard, l'un de ses auteurs.
Il est important de faire l'état des connaissances au moment où on voit de façon de plus en plus manifeste ce changement climatique. Nous avons beaucoup progressé dans les 10 dernières années sur les sciences du climat, dans plusieurs domaines, dans la précision finalement qu'on peut apporter sur les climats régionaux. Donc ce nouveau rapport va contenir des éléments plus détaillés, plus importants dans ce domaine-là.
Et le rapport du GIEC contient aussi des rappels, sans surprise, très alarmistes.
Nous sommes entrés dans la décennie de 2020-2030 et cette décennie, eh bien, on sait qu'elle est tout à fait cruciale pour les actions contre le changement climatique si on veut arriver à avoir un changement qui reste gérable. Donc il est très important de rappeler toutes les connaissances qui existent pour pouvoir éclairer les choix politiques.
La température globale de la planète a déjà augmenté de 1,1 degré depuis l'ère pré-industrielle. 1,5 degré pourrait être atteint entre 2030 et 2040.
Les précisions de Sandy Dauphin. Et en attendant les prévisions du GIEC, une solution concrète tiens, pour réduire la consommation de viande, très gourmande en ressources naturelles, du foie gras de synthèse développé en laboratoire à partir de cellules d'œufs de canne. C'est le projet d'une jeune entreprise parisienne avec pour objectif d'attirer de nouveaux consommateurs, notamment à l'étranger où le vrai foie gras est parfois banni des assiettes. Mais en Périgord, on n'est pas franchement enthousiaste, Jeanne de Butler.
Dans son restaurant étoilé du Château des Vigiers, Didier Casaguana a l'habitude de cuisiner le foie gras du Périgord pour ses convives. Alors un foie gras cellulaire, pas question d'en entendre parler.
C'est quelque chose qui vient de se faire. Non. Je suis un fervent défenseur des personnes qui se lèvent tous les matins pour aller nourrir leurs canards, qui se lèvent tous les matins pour essayer de faire du mieux qu'ils peuvent. Ben non. Bientôt, on va nous filer des pastilles sur la table et on va dire, tiens, allez-y, mangez, c'est du foie gras. Bien sûr que si on me le fait tester, bien sûr que je le testerai. Mais après, je le présenterai pas à mes clients.
Et pourtant, selon ses fondateur, le foie gras cellulaire ressemble de près en goût et en texture à sa version traditionnelle. Pas suffisant pour en faire du foie gras, selon Marie Pierpé, directrice générale du CIFOG, le comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras.
On n'est bien sûr pas opposé à la recherche et à toutes les évolutions qui peuvent se produire, mais nous sommes absolument opposés à ce que l'on mette le mot foie gras sur ce type de produit. Ça n'est pas du foie gras, ça ne sera jamais du foie gras. Le foie gras, c'est un produit traditionnel qui est inscrit au patrimoine gastronomique de la France et qui correspond à un produit qui a toutes ses promesses pour le consommateur.
Le foie gras cellulaire dans nos assiettes, ce n'est pas pour tout de suite. Le produit n'a pas encore reçu l'autorisation d'être commercialisé.
Jeanne de Butler, France Bleu Périgord. Et puis au JO de Tokyo, la nuit n'a pas vraiment réussi aux Français. Déception notamment pour les nageurs. Marie Wattel termine 6e de la finale du 100 mètres papillon. On se console avec le deuxième succès des handballeurs français en match de poule, 34-29 face au Brésil. Au programme des Bleus aujourd'hui, du volley, France-Tunisie à 9h30. Et puis du judo avec Sarah Léonie Sizi, qualifiée pour les demi-finales.
Merci Alexis Morel. À tout à l'heure, 9h. À suivre le Zoom de la rédaction.